dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, Les délires de la création. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur. Durant le repas, le père dit « J'ai décidé une chose, nous allons rentrer. Ici, vous êtes trop libre et vous faites des bêtises. Demain matin, nous faisons les bagages. » Personne ne dit mot. La nuit, son corps est agité. Le père inquiet de savoir comment vont se comporter les Lyonnais face aux événements. La mère pense au bagage qu'il y aura à faire. Charles-André à la pension, Apolline à son frère et Jules à Gilles. Le lendemain, chacun se réveille de mauvaise humeur. Jules, après son déjeuner, pris, décide d'aller voir Gilles en cachette de son père. Il va vers la maison de jardinier, retrouve le jardinier Martin devant sa maison à arroser ses fleurs. Il le voit.
Qu'est-ce que vous voulez, monsieur?
Je vais parler à Gilles.
Mais Gilles dort encore, il est tôt.
Je sais, mais nous partons aujourd'hui.
J'ai appris. Et tu es venu lui dire au revoir?
Oui, monsieur.
Bien, venez.
Et il va le faire entrer dans sa maison.
Thank you. Il monte à l'étage par un petit escalier de bois. Le père frappe à une petite porte et entre. Je l'attends.
Je l'entends. Monsieur Jules est là. Tu veux le revoir? Oui, bien sûr.
Le père ouvre la porte.
Vous pouvez rentrer, monsieur.
Jules entre. Le père sort et ferme la porte. Jules voit que Jules est encore au lit. La pièce n'est pas très grande. Il y a un grand lit, une armoire et une chaise.
Une table de nuit, laissant le bois usé, ciré. Les parois sont tapissées avec du papier à fleurs beige et des roses rouges. Les volets sont ouverts. Il y fait jour. Jules s'étire et lui dit « Viens ». Jules s'approche. Jules lui dit « Vous partez ? » ?»« Oui, c'est sûrement à cause de ton frère. » Jules lui dit « Père a détruit la maison. » Nous en ferons une autre. Je suis triste que tu partes. Moi aussi. Je n'ai pas envie de retourner à Lyon. J'aimerais qu'on puisse partir ensemble. Pour aller où? Je ne sais pas, en Espagne. Jules est plus réaliste que son ami. Il sait que ce ne sont que des rêves. Il lui dit, pour passer la frontière, ce ne serait pas facile. Nous ne sommes que des enfants. Jules est triste de ce que vient de lui dire Gilles. Mais il ne se laisse pas démoraliser. Eh bien, nous resterons en France, cachés dans les bois. Tout d'un coup, il est pris d'un élan sentimental et va s'allonger à côté de son ami. Il lui dit « Nous serons que nous deux. Personne ne nous embêtera. Il n'y aura plus d'école. » Gilles lui demande « Et que ferons-nous ? Nous rebâtirons la cabane et pour manger, nous pêcherons et nous mangerons des fruits. » Jules, qui n'est qu'un enfant, lui aussi se met à rêver. « Oui, nous serons très bien tous les deux. Oui, très bien. » On a frappé à la porte. « Je veux être mon père. Entre, papa. » Le père est entré. « Monsieur Jules, votre père vous attend. » Jules est pâle et se dit « Nous aurions eu le temps de partir au lieu de discuter. Maintenant, il est trop tard. Il est trop tard pour s'enfuir. » Et Jules n'est même pas habillé. Monsieur Martin lui dit « Il faut vous presser. Votre père vous attend. » Tout à coup, le corps de Gilles se serre. Il se dit qu'il ne reverra peut-être plus son ami. Alors d'un coup, les larmes aux yeux, il plaque son ami contre lui, contre sa poitrine. « Je ne veux pas te quitter. » Il serre tout contre lui Gilles, qui s'abandonne.
Gilles, lui aussi, a envie de pleurer. Martin s'avance et leur dit « Allons, dites-vous au revoir, vous reverrez pour les vacances. Monsieur Jules, soyez raisonnable, votre père vous attend. » Gilles lui dit « Il faut obéir, je te promets qu'on se reverra. » Cette phrase donne l'impression à Jules que Gilles le trahit. Mais il ne veut pas le savoir. Serre très fortement son ami, l'embrasse et lui dit « Je m'en vais, mais nous nous reverrons. » Gilles lui dit « Oui, et tu m'écriras de Lyon. » Jules se dit que s'il lui a demandé de lui écrire, c'est qu'il ne croit pas à leur retrouvaille. Le corps brisé, Jules se dégage de son ami et se lève. Au revoir, monsieur Martin. Au revoir, Jules. Ne soyez pas triste. Et Jules s'en retourne. Il retrouve son père dans le hall, au milieu de valises.
Où étais-tu ?
Jules ne répond pas.
Tu étais voir Gilles.
Jules ne répond pas.
Tu étais voir Gilles. Je t'avais interdit. Il est temps de retourner à Lyon.
La porte du salon s'est ouverte. C'est sa mère. Elle va vers eux et dit à son mari
« Je n'ai qu'un enfant. Sois pas trop sévère avec lui. Ne le compare pas à son grand frère qui n'est qu'un voyou. »
« Tu as raison. Allez mon petit, va dans ta chambre et vois avec la femme de chambre ce que tu as amené. »
Je l'obéis. Ce mon petit de son père lui fait chaud au corps. Pourtant c'est lui qui l'éloigne de Gilles. Ils sont partis en fin de matinée. Jules n'a pas revu Gilles. Charles-André ne bronche pas, sa sœur le regarde. Les parents, durant le trajet, parlent des événements politiques. Le voyage se fait dans des routes baignées de soleil, routes poussiéreuses. Il fait très chaud dans la berline. Après une heure de trajet, ils sont blancs de poussière. Leur visage ressemble à des momies. Momies d'un monde qui s'éteint. La fin d'une époque qui se termine par le sang, les cris, la mort. Pour connaître une nouvelle vie avec de nouveaux hommes, une nouvelle élite. Après de nombreux arrêts, ils sont enfin arrivés à Lyon. La ville est dans l'attente des événements. Le père inquiet va aux nouvelles, voir des amis. La mère a reçu l'ordre de commencer à chercher une pension pour Charles-André. Apolline dit à sa mère qu'elle veut aller elle aussi en pension. Sa mère lui demande « Pourquoi souhaites-tu aller en pension ?»« Je vais avoir la même punition que mon frère. » « Et pourquoi ?»« Il a volé, c'est pour moi aussi, parce qu'il voulait que nous partions ensemble. »«
Vous êtes comportés comme des imbéciles. »« Et pour partir pourquoi ? Et aller où ?»«
Votre père a raison. Il faut que vous reveniez à la réalité, à la raison. »« Vous n'êtes plus des enfants. »
À cause de vous, Jules est puni lui aussi et risque la pension.
Mais si tu veux la pension, je ne dis pas non. En attendant, vous allez finir vos vacances dans vos chambres à étudier.
Jules bâcle ses devoirs pour pouvoir lire des romans d'aventure. Il rêve encore à son île et à Gilles. Heureusement qu'il a la capacité de rêver, car être enfermé toute la journée, cela le rendrait malade.
Le 9 août, chute d'Émile Olivier. Le 12 août, Napoléon se démet du commandement en chef des armées.
Constantin est assis avec sa femme au salon, l'un en face de l'autre. C'est le soir, la maison est silencieuse. Elle lui demande
« Que va devenir la France ?»«
Les royalistes et les républicains vont se battre pour ramasser le pouvoir. L'impératrice est dans l'illégalité. Elle a la régence, mais elle leur règne. Elle s'imagine préserver le pouvoir pour son fils. Mais le temps est fini où on pouvait créer des dynasties.
Que va devenir l'empereur ?
Il sera destitué. Il est déjà en partie. Je suis sûr que tous ses ordres ne sont plus à discuter.
Pauvre France.
Oui, pauvre France, qui risque de tomber dans l'anarchie.
Jules écrit des lettres à Gilles, mais n'a pas de réponse. Cela l'attriste beaucoup. Gilles ne répond pas parce que son père lui dit de ne pas le faire.
Monsieur Constant ne serait pas content s'il apprenait.
Pourquoi? Parce que son père ne veut pas que l'on se voie.
Il ne veut plus que son fils s'amuse avec un enfant. Tu comprends?
Les jours passent. Le 30 août, bataille autour de Sedan. La mère donne la permission aux enfants de sortir accompagnés de leur bonne. Jules rêve de prendre le train pour partir loin avec Gilles. Il ne reste plus qu'un mois de vacances. Et c'est qu'ensuite, la routine va l'enfermer. Il veut qu'il se passe quelque chose, qu'il lui arrive quelque chose. Il étouffe dans sa chambre avec ses livres, des livres qui ne font que lui parler que d'îles merveilleuses, de trailers, d'aventures. Cela lui met le feu au sang et puis il a envie de revoir Gilles. L'amour qu'il a pour Gilles est pur, il n'a aucun désir, seulement celui d'être près de lui. Enfermé dans sa chambre, où les histoires des autres ne lui suffisent plus, il a envie d'avoir une à lui. Il rêve de partir. Il en oublie sa famille et tous les inconvénients. Comme il voit les jours passer et qui sait que bientôt il sera trop tard, il veut passer à l'action. Il regarde ce qu'il a comme argent de poche, voit le prix des billets pour aller à Biarritz ou le plus près possible, mais n'ose pas aller à la gare. Tant pis, le jour de mon départ, je demanderai. Décide de partir tôt le matin avec un petit sac de voyage où il mettra à manger quelques vêtements et des livres qu'il aime bien. Pour la nourriture, à chaque repas, il met dans sa poche ce qu'il peut. Un morceau de pain, de gâteau, sac, des bonbons, du chocolat, du sucre, qu'il va cacher dans son sac. Il décide de partir un lundi, car c'est le lundi, premier jour de la semaine. Et père voyage pour ses affaires. Mère s'occupe avec les domestiques du rangement de la maison, du désordre du dimanche. À 6 heures, il se lève.
Il s'habille d'un costume neuf d'été. Mets dans un sac quelques vêtements et des livres. Et sort de sa chambre en évitant de faire du bruit.
Lorsqu'il sort de la chambre, en longeant le couloir, il ne fait pas de bruit. Passant devant les portes des chambres de ses parents, son frère, sa sœur, il lui semble que derrière les portes se trouve un silence pesant qui fait peur. Il descend les escaliers qui sont heureusement de pierre et ne font pas de bruit lorsqu'il y pose des pieds. Il a une exaltation étrange, se sent heureux d'être passé à l'action, de ne plus faire partie de ce monde, d'être passé de l'autre côté du miroir. En bas des escaliers, il entend les domestiques qui s'affairent, comme chaque matin, aux occupations de la préparation du petit déjeuner et de la toilette matinale. Enfin, la porte d'entrée. Vite, allez l'ouvrir. Heureusement qu'elle ne fait pas de bruit. Et puis, les domestiques sont tellement occupés. Dehors, il faut courir jusqu'au portail, en priant que personne ne vous voit par la fenêtre. Ouvrir le portail, qui est un peu dur, et hop, dehors, vite. Dehors, il faut courir jusqu'au portail, en priant que personne ne vous voit de la fenêtre. Mais là aussi, il faut courir jusqu'à ce que l'on ne puisse pas être vu de la rue. Voilà, on est assez loin. Soufflez un peu, marchez normalement. Les gens commencent à se lever, les gens sortent des maisons, les magasins s'ouvrent, les chariots de livraison se mettent en marche. Ce sont les gens du peuple qui sont dans les rues à cette heure, avec leurs musettes, casquettes, blouses et galoches. Certains fument. Ils ont le regard triste des gens qui vont commencer la journée sans goût. Les cafés se remplissent, les marchands de casse-saison se préparent. Jules voit tout ça avec tristesse. C'est la première fois qu'il est dehors si tôt et voit la ville se réveiller. Il a l'habitude des beaux quartiers, avec des gens se levant plus tard. Il se dirige vers la gare. Avant d'y entrer, il hésite. Ne va-t-il pas se faire remarquer? Ne fait-il pas trop jeune pour prendre le train seul? De toute façon, au point où il en est, il ne peut pas reculer. Il est entré dans le hall qui lui semble immense. Il s'approche d'un guichet où c'est marqué billet. La gare est presque vide. Il voit une tête avec une moustache et une casquette. Jules sort son argent et demande. Est-ce que cela suffit pour aller à Biarritz? L'homme surpris le regarde. Il hausse les épaules. De toute façon, son travail à lui, c'est de donner des billets. Il compte l'argent et dit « Non, il en manque », dit-il avec soulagement. Comme cela, ça va clore la chose. Jules n'a pas demandé combien il lui manque. Il regrette de ne pas avoir demandé jusqu'où il aurait pu aller. Mais enfin, il s'éloigne du guichet. Tu voulais aller où, mon jeune homme? Il se retourne surpris et voit l'homme qui vient de lui parler. Il est de taille moyenne, mince, cheveux noirs qui ondulent, petite moustache, mince et yeux tout ronds, bleu foncé. Il porte un costume gris qui semble tout près de son corps. Je désirais aller où? Tu désirais aller où? Pour que je puisse t'aider, si tu veux, bien sûr. Je devais partir pour Biarritz. Seul? Oui, monsieur. Tes parents te laissent voyager seul? Oui, monsieur. Ne m'appelle pas monsieur. Je m'appelle Tonton Georges. Tu as l'air sérieux et gentil.
je veux bien t'aider. » Il sort de sa poche une boîte de bonbons, l'ouvre et lui dit « Tiens, prends-en un !» C'est ce que fait Jules et le tonton lui dit « Écoute, nous allons discuter de tout cela. Nous pouvons le faire chez moi si tu veux, devant une bonne tasse de chocolat. Tu aimes les chocolats ?»« Oui, monsieur. » »« Allons, viens !» Le tonton lui prend la valise, le tient par l'épaule. Jules le suit un peu apeuré tout de même. L'homme le mène dans un dédale de rue, sur les pentes de la Croix-Rousse, où les preuses humides, où on entend le bruit du biston claque des canuts. Arrivé devant un immeuble un peu moins lépreux que les autres, l'homme lui dit « C'est ici, chez moi !» et il va ouvrir la porte de l'immeuble. L'allée est étroite et noire. En entrant, Jules a la chair de poule. C'est au troisième. Il monte les étages. Ça sent humide et mauvais. Jules n'est jamais allé dans un endroit pareil. Il aimerait s'enfuir, mais n'ose pas.
Allez, entre. Pousse Jules dans l'appartement et ferme la porte.
Un petit couloir gris.
Tonton va ouvrir une petite porte vitrée. Entre. Jules entre. C'est presque vide. Il y a deux chaises. Assieds-toi sur la chaise. Jules s'assoit sur la chaise.
En plus des deux chaises, il y a une table et un lit d'hiver défait. Jules, en voyant tout ça, a peur et se demande s'il ne devrait pas partir. Mais n'ose pas. L'homme va s'asseoir en face de lui. Il lui dit « Alors, d'où viens-tu ? Et qu'est-ce que tu as fait ?»«
Rien, monsieur. De chez moi. »«
Et qu'est-ce que chez toi ? Avec tes vêtements tailleurs, tu dois être d'une bonne famille. »
Je ne réponds pas. L'homme sourit.
Ça ne fait rien. Tu me plais. Si tu veux voyager, nous voyagerons. Tu veux du chocolat ?
Jules ne dit rien.
Ne sois pas timide. Je vais t'en apporter.
Il se lève et sort de la pièce.
Jules aimerait courir et sortir de l'appartement.
Il regarde autour de lui, voit sur le divan un gros chat noir qui fait semblant de dormir.
Au-dessus du divan, un tableau représentant un portrait d'enfant sage qui lit. Sur une commode, une statuette en bronze d'un jeune adolescent à l'antique. L'homme est revenu avec un plateau et tout ce qu'il faut pour un petit déjeuner. Il va le déposer sur la table.
Il remplit la tasse d'un café chaud.
Tu veux du sucre ?
Oui, monsieur.
Tu cuillères ?
Oui.
L'homme le sert. Avoir servi l'enfant, il s'assoit.
Et lui demande, cela fait longtemps que tu es dehors?
Non, monsieur. après avoir bu une gorgée, mange une brioche. Tu dois avoir besoin de te reposer. Déshabille-toi, allonge-toi sur le divan. J'ai pas sommeil, monsieur. Avant de partir, il faut que tu sois reposé. Jules se lève et enlève sa veste.
Maintenant, la chemise et le pantalon. Allez. L'enfant s'exécute.
Cela commence à l'énerver. Il ne s'est pas enfui pour être sous les ordres de ce fou.
Quitte ton caleçon.
Jules le regarde.
Allez, fais-le. N'aie pas peur. Je suis un homme, moi aussi. Tiens, regarde.
Et sur le regard de Jules, l'homme se met nu. Cette nudité le surprend plus qu'elle ne le trouble et ce corps d'adulte ne lui donne aucun désir. Avec ce grand sexe qui bande, ses poils, il trouve l'homme plutôt ridicule qu'autre chose. L'homme lui dit
« Allons maintenant, montre-toi, toi aussi. »
Jules ne bouge pas. L'homme s'avance vers lui pour lui descendre son caleçon. Jules est plus en colère que gêné. Ne comprend pas ce qu'un adulte peut lui vouloir, à lui, pas fini. L'homme se baisse et le regarde sur toutes les coutures. Il lui donne des baisers de partout et le caresse. Jules, malgré lui, a chaud.
Tu es beau, nous serons très heureux tous les deux. Tu verras, tu verras. Viens. Viens, mon petit.
Il le mène vers le divan, le fait allonger.
On l'a frappé à la porte. Ils se sautent tous deux.
N'aie pas peur, je n'ouvre pas. Ils ne peuvent pas rentrer.
J'aime mieux m'en aller, monsieur. J'aime mieux m'en aller. On frappe encore. L'homme lui caresse ses cheveux.
Ouvrez, police!
L'homme se lève.
N'aie pas peur, habille-toi et ne bouge pas.
Je veux partir, monsieur. L'homme met en vitesse son pantalon et une chemise.
L'homme sort de la chambre. Pendant ce temps, Jules se lève et s'habille en vitesse.
Il entend que l'homme a ouvert la porte.
Alors Antoine, je crois que tu es bon.
Comment cela ?
Ne te fatigue pas. On t'a vu à la gare avec le jeune. On a attendu un moment pour que t'en prennes un fragrant délit.
Où est le petit ?
Mais tu étais au lit avec lui.
Tiens, tiens.
On va t'emmener. Où est ta chambre ?
Ne mets pas le droit.
Laissez-nous regarder.
Ils ouvrent toutes les pièces.
L'homme soupire désespéré.
Vous avez gagné. Ne faites pas mal au petit. Où est-il?
Dans la chambre. Là.
La pièce est vide. Jude est allé dans le cabinet de toilette qui communique à la chambre. Et là, il a ouvert la fenêtre et a vu qu'elle donnait sur les toits d'autres immeubles. Il a cherché à savoir s'il y avait danger. Il est sorti par la fenêtre et s'est trouvé sur les toits. Là, heureusement, pas de vent ni pluie. Il marche sur les toits de plusieurs immeubles sans savoir où il peut et comment descendre. Enfin, il voit une trappe qui donne à un grenier. Sans hésiter, comme s'il avait fait ça toute sa vie, avec son pied et ses grosses chaussures, il donne deux coups pour casser la vitre. Il passe la main et ouvre la trappe. Puis, il saute dans le grenier. C'est une pièce remplie de bric-à-brac. Il cherche sa sortie en faisant attention où il marche car le parquet semble pourri et il y a des trous. Voilà la porte. Elle est fermée, bien entendu. Et c'est une simple porte en bois. La serrure est tout ce qu'il y a de plus précaire. Je vais la faire sauter. Il cherche autour de lui et voit une barre de fer. Avec cette barre de fer, je vais essayer de fixer la serrure à la porte.
Après de nombreux efforts, la serrure qui tenait par quatre coups, rouillée, cède et tombe à terre. Ouf.
La porte s'est ouverte toute seule sans bruit. Vite, il sort. Se trouve dans un couloir à plusieurs portes comme celle-ci. Long du couloir, d'où au fond il y a des escaliers de bois. Puis en descendant, ils deviennent de pierre. Et, ouf, enfin, c'est la sortie de l'immeuble.
Que je te reprenne, tu vas pas regarder, que je te reprenne.
Ouf, il a eu chaud, mais fier de ce qu'il a fait. Une véritable aventure comme dans ses livres, et s'est conduit comme un héros. La rue est étroite et se trouve sur les pentes de la Croix-Rousse. C'est grand jour, ça doit être l'après-midi. La glace d'un cordonnier lui montre son visage, tout noir de poussière et suie. Regarde ses mains et ses vêtements, ils sont sales aussi. En continuant à marcher, non loin de là, il tombe sur une petite place avec une fontaine. Il décide de se laver un peu avec son mouchoir. Se lave la figure, donne un coup aux vêtements, se frotte bien et lave les mains.
Je cherche un emploi.
Se sent lent et a faim. Décide de s'acheter des gâteaux secs. Entre dans une boulangerie. En achète et ressort du magasin. Puis, il va s'asseoir sur un banc et mange. Il s'endort.
se réveille, il a dû dormir un bon moment. La lumière du jour est moins forte. Il décide de marcher un peu. Tout en marchant, il se demande ce qu'il va devenir. Où doit-il aller? Sans le faire exprès, et comme toutes les rues sont noires en haut, il descend. Il se retrouve en bas des pentes. Là, il retrouve la circulation des beaux quartiers. Il se laisse aspirer par la ville et n'ose pas penser à l'avenir. La journée a été tellement... a eu tellement d'événements. Tout à coup, un fiacre s'est arrêté devant lui. La portière s'est ouverte. C'est son père. Entre. Il n'a pas eu le temps de réagir qu'il est entré dans le fiacre et qu'il se met en marche. Son père lui demande « Tu faisais une promenade ?» Il rougit, il ne dit rien. Il ne doit pas connaître sa fugue. Puis, je rentre plus tôt que prévu. Cela va mal. L'empereur et l'armée sont en plein bourbier. Alors nous allons quitter Lyon, père. Attendons un peu et nous verrons. Ils arrivent vers chez eux. Au salon, il retrouve la mère et est surprise de les voir tous les deux. Elle dit « Je me faisais un tel souci, je me demandais. » Son mari l'arrête, la prend dans ses bras. « Tout va bien. » Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique le scénario original de Julien Jean-Pierre, Les délires de la création. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.